Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de Histoire de savoir, une émission de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration des podcasts réalisés par des étudiants de la Haute École Bruxelles-Brabant, la HETB, sur le campus de Fray, campus pédagogique. Nous allons en écouter deux aujourd'hui, deux podcasts. Tout d'abord, l'assez intime Les yeux fermés de Malou, Estelle et Emmeline, et ensuite l'étonnant, le perturbant peut-être, À contresens de Alexandre et Alice. Je vous souhaite une bonne écoute.
Podcast, choisir podcast. Lancer podcast Les yeux fermés.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, ça va.
Ça va.
Oui, oui, c'est vert.
C'est bon. On y va.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Ici Emmeline,
Estelle
et Malou,
future éducatrice spécialisée.
Connaissez-vous la station de tram Héro?
Avez-vous déjà été coincé dans une foule d'élèves sortant du bus 41?
Connaissez-vous la couleur du dernier poteau avant le passage pour piétons?
Nous non, mais André, oui.
Alors, chers éditeuristes, nous vous invitons à prendre la route avec nous à travers les pas de Monsieur Gonda, professeur à la HEDB de Fray.
Ce fait, ça traîne. Je vois le mouvement des voitures, hein, tu vois. Mm-hmm. Je regarde là. Si les voitures sortent de là, c'est que c'est notre passage. Ah, maintenant, on peut aller.
Parce que la voie de la commune,
le grand problème dans ce trajet, c'est cette portion-ci. Il y a beaucoup d'obstacles. Des poteaux, des... Alors quand j'arrive ici, j'ai ralenti un peu. Mais je connais au moins l'emplacement de tous les obstacles. Et je vais vous dire comment est-ce que je reconnais les derniers obstacles. Il est de couleur bleue, tout au bout là. Et quand j'arrive ici, directement, je traverse.
0,10.
Et c'est vrai, quand il y a des personnes comme ça, ça me perturbe un peu. J'ai difficile à m'orienter et surtout à retrouver mes repères. Pour me rassurer, surtout quand il fait noir, hein, là j'ai des difficultés à m'orienter. Et pour me rassurer que je suis dans le bon chemin, j'ai des repères tactiles que j'ai mis. Ah, vous voyez ici, là ça descend. Et directement quand je descends là, je me dis, oh, je suis dans le bon chemin. Par exemple, à la gare de Midi, c'est la gare la plus adaptée pour les malvoyants. Il y a des repères tactiles qui conduisent vers les voies. Et quand on les suit très bien, on peut se retrouver dans la voie cherchée.
Ça
On a dépassé les escaliers là?
Oui, on vient de les dépasser.
Ah, c'est bon alors. Oh. Attends. Là, il y a un petit chemin qui mène là vers la gauche.
Oui,
oui, on est dessus.
Ah, on est dessus, hein?
Oui.
Ah, ici, hein? Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je mets plus d'attention quand je suis seul. Mais c'est parce qu'on parle aussi, hein? Ça me perturbe un peu. Cette année, j'ai tous mes cours en anglais. C'est la première année que je puisse bénéficier de cet aménagement en 20 ans d'activité professionnelle à défaut.
Vous êtes arrivé à destination. Lancez voix off.
Et vous, vous saviez que le poteau était bleu?
Qu'à la moitié du trajet, le trottoir est affaissé?
Que les feux rouges silencieux sont très dangereux?
Ou que les passagers du 41 sont très pressés?
Quelques jours après cette immersion dans le quotidien de Monsieur Gonda, nous l'avons retrouvé pour en apprendre plus sur son histoire.
Fin voix off. Présentation André.
Je suis André Mbogonda, enseignant à l'EFRE ici bientôt, ça fera 20 ans. Je suis marié, père de deux enfants. Un jour, je me suis levé, je voulais partir à l'école, je voyais très bien. Du coup, je commençais à avoir des maux de tête. Et ces maux de tête se sont fait suivre d'une vision floue. Et j'ai lancé l'alerte auprès de mes parents. Et quand Thomas conduit à l'hôpital, malheureusement, on venait de découvrir un glaucome qui était déjà à l'âge avancé. L'imprudence était auprès de mes parents, puisqu'ils devaient prendre les choses en main dès ma naissance, parce que ma grand-mère en a souffert. Ce qui fait que comme ma mère n'a pas eu ça, et voilà, les parents ont négligé un peu en se disant que voilà, ça s'est arrêté à la génération de ma grand-mère. Et c'est comme ça que, du jour au lendemain, je suis devenu malvoyant. Comme j'étais jeune, j'avais 8-9 ans, cela n'a pas tellement eu d'impact sur mon vécu psychologique, puisque j'étais toujours avec mes amis d'avant. Et puis, vers l'âge 8-9 ans, j'avais encore une bonne vision. Je pouvais lire en grand caractère, donc cela n'a pas tellement eu d'impact sur ma vie quotidienne. Par contre, ce dont j'ai beaucoup souffert, c'est le fait de pouvoir passer de l'écriture normale à l'écriture braille. Et ce changement-là qui m'a beaucoup bouleversé. Quatrième, cinquième, sixième primaire, voire première année secondaire, je lisais encore en noir et blanc. On pouvait soit agrandir, soit jouer avec les contrastes. Ça me permettait quand même de me débrouiller. Et c'est en deuxième année secondaire que les vraies difficultés ont commencé à apparaître. Je me suis rendu compte que là, c'était vraiment fini. Alors mes médecins m'ont conseillé d'aller m'inscrire à l'Institut des aveugles. C'était au Congo, pour apprendre le braille. Et ben, en fait, c'était quand même un bon passage pour moi, puisque là, à l'Institut, j'ai vu des aveugles de mon âge. Donc, ça m'a quand même encouragé pour le fait que je me suis rendu compte, non, n'étant pas seul dans ces cas, il y a aussi d'autres personnes, d'autres jeunes, à mon âge, qui souffre aussi de problèmes visuels. actuellement, vous savez, l'informatique adaptée, c'est un soulagement pour nous. Actuellement, par exemple, moi j'ai... à notre époque, ça n'existait pas encore. Actuellement, j'ai une barrette braille qui transcrit en braille tout ce qu'il y a sur l'écran. Et j'ai une synthèse vocale aussi qui lit tout ce qu'il y a sur l'écran. Par exemple, sur mon téléphone Apple, a mis une synthèse vocale qu'on appelle Voice Over. Je veux...
13h13. Météo, police, système, compte, forme, horloge, WhatsApp, il y a 12 minutes, Olga, téléphone, Facebook, il y a 36 minutes,
donc,
Facebook, notification.
Il est en train de dire tout ce qu'il y a sur l'écran. Et ça me permet de pouvoir travailler, ça me permet... C'est le même système aussi avec l'ordinateur. Hein. Il lit tout ce qu'il y a sur l'écran. En tout cas, ces aides techniques ont été... un outil, ont été très précieuses pour moi. Et surtout dans le cadre de ma profession ici, en étant enseignant. Dans les transports en commun à Wallonie, rien n'est adapté. Par contre, à Bruxelles, ici, on voit le bus qui annonce des arrêts, les trams qui annoncent des arrêts, ça nous permet quand même de nous situer par rapport à l'espace. C'est encore un parcours de combattant. Ça commence à venir, mais ce n'est pas encore ce qu'il nous faut. Nous sommes dans un monde où 80% des informations nous sont transmises par le canal visuel. Alors, la personne aveugle ou malvoyante qui est dépourvue de la vue doit développer en principe tous les sens. Comment est-ce que j'ai pu découvrir l'étalement des pins au Lidl qui est non loin de chez moi? D'habitude, souvent quand j'y vais, je demande toujours de l'aide. Soit je me fais accompagner d'un de mes enfants, soit de mon épouse. Alors, une fois, j'étais tout seul. Je me suis dit, non, je dois essayer de découvrir, moi, sans l'aide aujourd'hui, l'étalement des pins, là où on dépose les pins. Et je suis entré dans le Lidl et j'ai commencé à suivre l'odeur. L'odeur
du pain.
Et j'ai suivi l'odeur jusqu'à ce que j'ai pu localiser l'emplacement de pain. Donc dès maintenant, je ne demande plus l'aide. Je sais que quand je rentre dans mon Lidl, je tourne à gauche. Mais quand je suivais comme ça, là, je mettais en même temps aussi mes repères spatiaux. Je sais quand je tourne à gauche et plus loin je tourne à droite, le premier rayon, il y a l'étalage de pain. J'étais une fois au bord d'une rue et c'était... j'ai voulu traverser pour prendre mon bus de l'autre côté. Non, j'ai voulu prendre le bus dans le sens où j'étais. Et il y a une dame qui est venue vers moi sans me demander. Elle m'a pris dans ses mains. Elle m'a fait traverser de l'autre côté. Et quand elle m'a fait traverser de l'autre côté, après mon bus était passé. Alors... j'ai dit à la dame, mais vous me faites traverser sans pour autant me demander, moi, mon avis, si je voulais traverser. Elle a commencé à s'excuser. Alors, pourquoi j'ai dit cette anecdote? C'est pour que vous sachiez, si vous trouvez une personne non malvoyante dans la rue, avant de pouvoir lui venir en aide, il faut lui demander. Dans un endroit que je connais, je préfère me débrouiller seul. Je préfère me débrouiller seul. Quand je descends du tram là à Héros, je préfère me débrouiller seul et demander l'aide quand vraiment le besoin s'impose. Comme aujourd'hui, quand je suis descendu du tram, Je traversais, je pris le trottoir habituel, hein, qui m'amène ici. En traversant la première rue, il y a eu les travaux. Il y a eu les travaux. Et là, j'étais un peu coincé, je n'avais plus mes repères. Et j'ai crié au monsieur qui travaillait là, j'ai entendu qu'il y a une machine qui faisait vendre. J'ai dit, là, quelqu'un doit être là. J'ai dit, monsieur, aidez-moi à traverser, à passer, parce que là, vous faites des travaux et que moi, je n'ai plus mes repères. Et le monsieur était très gentil. Il m'a pris. On a fait avec lui un bout de chemin tout juste pour que je puisse passer là où il faisait des trous. Mais le visage, cette question-là aussi, mon épouse me l'a posée. Quand on a commencé à se côtoyer, elle me dit, comment est-ce que tu as su que j'étais comme ça, comme ça, comme ça? J'ai dit, non, mais écoute, moi, je peux deviner quelqu'un, sa physionomie, par sa voix. Hein, par sa voix, directement, je peux dire que celui-là, elle est de courte taille, elle est de longue taille, ainsi de suite. Donc, surtout quand il est debout, la provenance de sa voix est une indication majeure pour moi, pour pouvoir savoir un peu la physionomie de quelqu'un. Ouais. Le coucher du soleil, on sait le sentir. Hein? On sait le sentir avec son corps que voilà, maintenant le soleil va se coucher, ou bien c'est comme maintenant, je sais qu'il y a le soleil qui me frappe. Hein? Je sais que le soleil est là. Les mots, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Oui, je les vis quotidiennement, oui. Je suis très fier de vous, puisque vous avez pris un sujet qui est très intéressant. Hein, que les gens n'ont pas tellement l'habitude d'évoquer. Et je vous encourage à continuer dans ce sens.
Fin de l'interview. Lancez conclusion. Remerciez Andréane Béobonda. Remerciez Déborah Fabré.
Merci de nous avoir écoutés et d'avoir pris le temps d'apprendre à connaître André avec nous.
Nous espérons que ce podcast a pu vous ouvrir les yeux sur le quotidien des personnes malvoyantes.
Nous tenons à remercier Monsieur Gonda pour son temps et son expertise, et Madame Fabré pour son soutien.
Fin du podcast, à bientôt sur les ondes, bip. We'll be right back.
C'est le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le temps.
Il faut le prendre en institution, en fait, clairement. Sinon, en fait, vous rentrez dans une banalité du quotidien qui va faire que vous ne posez plus aucun... Vous ne mettez... Voilà, c'est ça, c'est que vous ne mettez plus aucun sens, en fait, à ce que vous faites. Et là, ça devient dangereux. C'est là où on arrive à de la violence, institutionnelle ou enfin, ce qu'on appelle la violence douce aussi, quoi.
Jingle. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, all the way.
À contresens, le podcast qui commence par la fin.
Bonjour, je m'appelle Déborah Fabré, je suis interviewée sur le parking de Defray et je suis éduc à la base et sinon je suis prof d'éducation média et de TIC à Defray.
Quel est le plus grand défi que vous rencontrez dans votre travail au quotidien ?
Me lever le matin. Il y a quand même ça, c'est le premier défi. Rentrer chez moi après entière. C'est pas que le boulot est dangereux. Hein. Mais non, attends, c'est le plus grand défi. Comme éduc, le plus grand défi. Alors, soit je le fais à la blague, et pourtant c'est pas faux, c'était de les garder entiers toute la journée, enfin, en étant dans un état de bien-être, d'assurer leur bien-être toute la journée. Et parfois, c'est pas évident. Et ça, donc, j'étais éduque avec des personnes en situation de handicap mental sévère à profonde. Et donc, voilà, comme ils parlent pas, les trois quarts étaient non-verbaux. Donc, en fait, c'est le plus grand défi, c'était d'être sûr qu'ils étaient bien au bon moment, au bon endroit.
Votre métier, qu'il soit celui de professeur ou d'éducatrice, a-t-il du sens ?
Ben, j'espère. ça me fait rire parce que il y a des choses que tu fais sans sens, toi.
On laisse la place à la météo.
La reproduction est quelque chose d'existentiel. Et pourquoi on devrait s'intéresser à la reproduction des sauterelles spécifiquement ? C'est vrai que ça serait complètement étrange, mais parce que je pense que la reproduction des sauterelles montre bien un type de reproduction très précis qui est intéressant de se développer, car savoir, finalement, qu'est-ce que c'est que le savoir ? Savoir des choses, ça permet d'avancer, finalement, dans la vie. Avancer dans la vie, savoir des choses, s'informer, et c'est comme ça que nous ne sommes pas ignorants. Parce que l'ignorance, finalement, qu'est-ce que c'est ? Avec de l'ignorance, nous commettons des erreurs, et en tant qu'éducateur, il est important de s'informer sur les choses de la vie pour pouvoir avancer sur divers objectifs. Donc il est essentiel, en termes d'éducateur et en termes de la vie en général, de savoir comment se reproduisent les sauterelles. Comme savoir qu'est-ce que c'est qu'une septième fourchette.
Donc je travaillais, je répète, avec des personnes en situation de handicap mental sévère à profonde. Et là, je travaillais essentiellement avec les personnes vieillissantes. Et donc, j'étais à côté de... Je vais donner son nom. Hein. J'étais à côté de Marguerite. En fait, Marguerite, elle était en fin de vie. Et avant, donc, enfin, elle bougeait plus beaucoup, elle restait là dans son fauteuil. Donc j'étais assise à côté d'elle et je tricotais parce qu'en fait Marguerite tricotait avant et donc elle aimait bien que je m'asseye à côté. Enfin, j'imaginais qu'elle aimait bien que je m'asseye, je tricote à côté d'elle. Du coup, elle me regardait et puis elle me tapait sur la cuisse en disant « Ça va, Déborah ?»« Oui, ça va, Marguerite. » Et je continuais à tricoter. Et à ma droite, il y avait Isabelle, une autre résidente, qui, elle, évidemment, essayait toujours que je lui fasse des câlins, là, et des massages dans son dos et sur son épaule. Et puis, en fait, elle me fait « Ah, ah !» Et puis, elle me montre le tricot. Je fais « Bah oui, je tricote, Isabelle. » Et puis, je continue en essayant de ne pas perdre de mailles. Ça, c'était déjà pas gagné. Et puis, elle recommence « Ah, ah !» Je dis « Bon, bah, tiens, vas-y, prends-le, quoi, le tricot. Amuse-toi, quoi. » Et ben, en fait, elle savait tricoter. Et ça faisait 10-15 ans que je travaillais là-bas et je ne savais absolument pas qu'elle tricotait. Et donc là, et en fait, je fais « Mais Isabelle, tu tricotes ?» Elle a éclaté de rire. Et du coup, en fait, dès qu'on voyait que c'était un peu limite au niveau de son comportement, qu'on sentait qu'elle s'énervait un peu parce qu'elle voulait du café, elle voulait autre chose, ben voilà, on lui mettait le tricot et ça passait comme une lettre à la poste. Et voilà, découverte, c'était une super découverte.
D'après vous, quel est l'avenir du métier d'éducateur ?
Ça va être la merde, hein ?
En vrai, je l'appréhende pas trop parce que je sais que d'office on trouvera une place puisqu'on a besoin d'éducateurs partout. Et je pense que je serai en mode je vis ma vie d'éduc, ça marche, tant mieux, ça marche pas, ben je change d'endroit.
J'appréhende le métier dans le sens où il y a tellement de secteurs que j'ai peur de choisir le mauvais et de pas me... Je sais pas, de ne pas me sentir à ma place.
Mais en fait, autant je pense qu'il va y avoir... on est beaucoup d'éducateurs qui rentreront tout doucement dans le métier, mais en même temps, ben, plus je vais dans des institutions, plus il y a des... Il y a du manque de personnel. Donc c'est un peu compliqué. Je suis entre les deux. Il y a la réalité du terrain qui dit, ben, Il y en a. En fait, ça dépend des institutions aussi. Hein. C'est ça qui est compliqué. Donc, je dirais middle. Bien et en même temps pas bien.
Comme tu l'as dit, on n'est pas tant dans les institutions, donc c'est pour ça que pour moi, je pense que trouver un travail va pas du tout être compliqué.
Tu trouves pas forcément des éducateurs spécialisés
voilà.
dans les institutions, puisque c'est un métier qui est pas protégé.
Voilà, et c'est grâce à ça que tu vas avoir facilement une place en tant qu'éducateur spécialisé dans les institutions, plus facilement.
Mais est-ce que dans un secteur que tu veux, ou alors tu vas te limiter aux offres qu'il y a, tu vois.
Dans un premier temps, je testerai déjà d'aller voir dans les institutions qui m'intéressent. Et si vraiment je vois qu'il n'y a pas moyen, plan B.
Donc, un avenir incertain.
Exactement.
Tout à fait.
Alors, l'avenir du métier, bah, ça dépend parce qu'il est déjà pas très bien défini finalement dans la société. Mais du coup, je l'appréhende. Ça dépend comment le monde va évoluer.
Ah bah, vu comme le monde tourne, à mon avis, on a encore du boulot pour un certain temps. Parce que, allez, a priori, l'éduc... Il n'existe plus quand tout le monde va bien. A priori, on n'est plus là, on ne doit plus accompagner des gens en marge ou des trucs comme ça. Donc, a priori, ça devrait toujours aller mieux. On devrait de moins en moins en avoir besoin. Cela dit, j'ai l'impression qu'on en a de plus en plus besoin. Et juste un petit exemple, je connais quelqu'un qui, pour un bête truc entre guillemets, mais un problème de santé mentale, a essayé de contacter des psychiatres juste pour pouvoir... être médiqué, donc avoir une vie un peu posée, un peu normale. Et cette personne a téléphoné à tous les hôpitaux de Bruxelles, donc Saint-Luc, Erasme, je ne sais plus quoi. Ils étaient full, des psychiatres privés, ils étaient full. Et en fait, il n'y a plus de place. Donc en fait, les problèmes de santé mentale, entre autres, par exemple, sont en augmentation. Et donc bah, clairement, nous, en tant qu'éduc accompagnés au quotidien, je pense qu'on va continuer à avoir du boulot. Quoi.
Donc une phrase pour définir ce qu'est accompagner.
Ok, accompagner pour moi, c'est aider le bénéficiaire dans les tâches du quotidien, que ce soit paperasse, écoute, de manière générale.
Rester présent, se montrer disponible.
Accompagner, bah, finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on accompagne? Accompagner, c'est un mot très vague finalement. Hein. Il peut dire beaucoup de choses. On peut dire qu'il peut dire aider, il peut dire solliciter, accueillir l'autre dans sa globalité finalement.
Ce serait accompagner dans les tâches au quotidien, accompagner au quotidien les différents types de bénéficiaires et dans les différents types de secteurs qu'il peut y avoir.
Accompagner, c'est comme prendre une personne en fauteuil roulant et la pousser dans une côte. La personne, elle sait tirer elle-même ses roues, mais c'est dur. Alors on donne un petit pouce en plus.
Vaut mieux partir voyager.
Il me faut un mot pour définir le métier d'éducateur.
Accompagner.
Fou. Bénéficiaire.
Aider.
Accompagnement.
Polyvalent.
Écoute active.
Complexe.
Mais c'est hyper large.
Dernière et ultime bafouille. Combien de fourmis faudrait-il pour soulever un éléphant?
15.
Bienvenue dans à Contresens, le podcast qui commence par la fin. Lui c'est Alice.
Elle c'est Alex.
Ah non!
C'est dans l'autre sens. Insensé. Insensible. Tu l'aimes, mais pourtant tu la fouilles. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne, à chaque pas, sur le devant de la scène.
Vous l'avez compris, le thème d'aujourd'hui est
le sens.
Le sens derrière le processus éducatif du point de vue d'éducateur et éducatrice spécialisée, futur ou expérimenté.
Jingle.
Jingle bell, jingle bell, jingle all the way, all the way.